Ok, donc je commence. Donc, Perek Lévi, page 32, Mishnah Aleph, première Mishnah. Puisqu'on a raconté dans les deux Mishnayot précédentes, on a parlé de ce qu'on appelle le Yirous.
C'est-à-dire, donc, mais on s'est arrêté à 31.
On l'a déjà fait.
Ah oui, c'est vrai, c'était la dernière.
Puisqu'on a parlé dans les deux chapitres précédents, les deux Mishnayot précédentes, on a parlé du Yirous, c'est-à-dire de la généalogie. On avait parlé avec un esclave, etc. Est-ce qu'on suit le père, est-ce qu'on suit la mère, etc.
Oui.
C'est ce qu'on a parlé dans la Mishnah d'avant. Donc on continue de parler toujours dans la même lancée. Mishnah nous dit « Asara yochassin alu mi Bavel ». Il y a 10 sortes de familles, 10 sortes de familles, c'est-à-dire 10 sortes d'affiliation, 10 sortes de yichus, c'est-à-dire donc des catégories de familles, alu mi Bavel, qui sont montées de Babylone, avec Ezra. Alors il faut savoir que quand on a eu le premier exil, donc on a été tous exilés en Babylonie, et après Ezra est remonté avec la majorité du peuple juif, il est remonté, et il est venu donc avec donc la Gemara explique qu'il a pris avec lui, en venant en Eretz Israël, voilà, on parlait hier de jour de l'indépendance, Ezra a ramené avec lui tous les sages de la génération. Tous les sages qui étaient un peu en Babylone, il les a tous ramenés. Jusqu'à tel point on nous dit que en Babylonie, il restait plus personne qui était capable, plus aucun chacham qui était capable de vérifier les généalogies. C'est-à-dire, il n'y avait plus aucun rav qui était compétent pour ces choses-là.
Pour vérifier les
généalogies. Oui.
Pour quelles étaient.
Ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'il y a toujours des problèmes qui arrivent. Toujours des problèmes qui arrivent. Qui peut se marier avec qui ne peut pas se marier avec qui.
D'accord.
Et le problème qu'il avait Ezra, c'est quoi? C'est que Ezra, comme il s'est rendu compte qu'il était en train de prendre avec lui tous les rabbanim et qu'il n'allait pas laisser de rabbanim en Babylonie. Mmh. Donc il a eu peur que dans les restants, il savait qu'il y en allait qui n'allait pas venir. Donc ceux qui allaient rester,
qu'il n'y a pas des mamzers,
qu'il n'y a pas des mamzers, qu'il n'y a pas des problèmes.
Des problèmes sur des mariages.
De gens qui vont s'intégrer au peuple juif alors qu'en vérité, ils ne pouvaient pas se marier. Mmh. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a pris avec lui toutes les familles pasoules, toutes les familles problématiques, il les a pris avec lui. Il savait qu'il y avait du monde qui n'allait pas venir avec lui. Mais pour éviter le problème...
Pour ceux qui restent...
Voilà, pour ceux qui restent, c'est gentil ce qu'il a fait. Pour éviter le problème, non seulement qu'il a pris avec lui, bien entendu, tous ceux qui voulaient venir, mais à part ça, il a convaincu toutes les familles pasoules, toutes les familles qui étaient problématiques, comme les mamzers, etc. Il les a fait venir avec lui de manière à ce que pour les restants, il n'y avait plus de problème. Il n'y avait pas de risque. Alors voici les 10 types de familles, les 10 catégories de familles. Donc maintenant on va comprendre mieux cette Mishnah. Mm-hmm. Voici les 10 catégories de familles qui ont fait l'aliyah de Babylone. On a Kahané, on a les Kohanim, bien entendu. On avait des Lévi'im, d'accord. On avait des Lévi'im. Donc les Lévi'im, il faut savoir que la Gemara nous raconte dans le traité Sota, elle nous dit que au début les Kohanim voulaient faire l'aliyah, mais les Lévi'im ne voulaient pas faire l'aliyah. Donc comme ils voulaient pas faire l'aliyah, on dit que Ezra, le scribe, il les a punis. D'accord, donc on a dû les convaincre à venir, mais puisqu'ils voulaient pas faire, vraiment, ils ont fait de la résistance. Donc on dit que Ezra, il les a punis par la suite, qu'il y a certains cadeaux qu'ils devaient recevoir, qu'on a arrêté de leur donner, au lieu de leur donner à eux, on l'a donné aux Kohanim, pour les punir. Donc on a les Kohanim, les Lévim, qui sont, même s'ils voulaient pas au début, mais ils ont finalement fait l'Aliya. On a Israélé, c'est des simples juifs. Quand je dis des simples juifs, ça veut dire des juifs qui n'ont pas de... Ils sont ni Kohen, ni Lévi, mais juifs cachers, d'accord, un juif standard. Donc on a toujours dans les familles qui sont montées avec Ezra, on a Halalé. Donc les Halalé, ça veut dire, un Halal, c'est quoi un Halal? Un Halal, on l'a appris la semaine dernière. C'est un Kohen qui est né d'une femme qui ne pouvait pas se marier avec... C'est un Kohen qui est né d'une femme qui ne pouvait pas se marier avec un Kohen, par exemple. Un Kohen qui se marie avec une femme divorcée. D'accord? Est-ce qu'il a le droit? Il n'a pas le droit. L'enfant qui sort de cette union sera Halal. Pas Halal comme la viande. Halal en hébreu, ça veut dire profané. Parce que c'est un enfant qui est issu de la profanation du nom de Dieu. Si le Kohen n'avait pas le droit de se marier avec une femme divorcée, par exemple, c'est parce que le Kohen doit garder un certain standing, parce qu'il représente Dieu. D'accord ? Donc le fait de ne pas avoir fait cas de ça, c'est profaner le nom de Kadosh Baruch Hu. Donc l'enfant qui est issu de cette profanation, on l'appelle Halal, ça veut dire le profané. D'accord ? Halal, c'est ce que ça veut dire. Bon, je vais pas parler de la viande Halal, mais on peut comprendre ce qu'on veut.
On est un bon.
Guéré. Guéré, c'est donc des guérim, ça veut dire c'est des gens qui se sont convertis. D'accord. Va charouré. Charouré, c'était donc des esclaves qui ont été libérés. Donc là, on nous parle des catégories sociales qu'il y avait dans le peuple juif, d'accord, qui sont venus avec Ezra. Mamzeré, donc des mamzerim, ça on sait ce que c'est. D'accord ? Donc les mêmes Zérim, on a expliqué dans la Mishnah numéro 12 du chapitre précédent, on a expliqué, c'est-à-dire c'est un enfant qui est né d'un enfant qui est né d'une union avec une femme qu'on n'a pas le droit de se marier. Ça s'appelle un mamzer. Netiné, les netinim. Alors comment il traduit les netinim ici ?
Netinim.
Les mamzerim, c'est gentil. Les netinim, d'accord. Alors c'est quoi les netinim ?
On l'avait dit
la semaine dernière. Les netinim, ils descendent des Gabaonites. Les Gabaonites, c'est ceux qui sont convertis par ruse à l'époque de Yoshua. Ils ont dit oui, on veut rejoindre votre peuple, mais en vérité c'était une ruse. Donc du coup, on les a appelés les Netinim, et ils pouvaient se marier qu'entre eux. On n'a pas le droit de se marier avec eux. Il a dû l'expliquer avant aussi, il n'a pas expliqué maintenant. Dans la Mishnah, dans les deux.
Ah oui. Et ça a été renouvelé même jusqu'à David.
Ah oui, oui.
C'est-à-dire que ça a été prolongé.
Il y a eu Yoshua qui a fait, Josué, et après il y a eu le roi David aussi.
Ils sont restés toujours à l'écart alors.
Toujours à l'écart. Ah bah oui, parce qu'ils sont venus par ruse. D'accord.
Ouais, mais bon, c'est-à-dire qu'il pourrait jamais y avoir un guerre de cela qui...
Ah, un guerre, c'est une bonne question. Est-ce qu'un latin, il peut devenir guerre? Faut voir, je sais pas. Parce que c'est trop facile après.
Ouais.
Oui, mais tu veux dire, s'il y a quelqu'un de sincère qui veut rejoindre le peuple.
C'est le problème, c'est que ce sont des faux guerriers.
Ouais.
Oui, mais maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont mélangés avec, au peuple, finalement.
Ben non,
c'est peu, ils sont.
Ben non, c'est peu, ils sont.
La chair, il sera, quoi.
Ils ont du poil chez les carites.
Si peu.
Peut-être oui, peut-être non, hein. Il y en a qui ont essayé. Donc, Donc, Netiné, on a dit, donc c'est les Netiné. Donc, en vérité, c'est les Gabaonites. D'accord. Shtuke va assouffer. Alors, Shtuke et assouffer, la deuxième Mishnah va expliquer c'est quoi Shtuke, c'est quoi assouffer. D'accord. Shtuke et assouffer, donc c'est deux catégories du peuple juif dans lesquelles on a un doute qui sont mamzerim. On a un doute qui sont mamzer ou pas. Donc, on expliquera exactement c'est quoi le code de Shtuke et assouffer dans la Mishnah numéro 2. Donc, pour l'instant,
il faut donner quoi un conseil à quelqu'un qui se marie vraiment, qui remonte jusqu'à l'arbre de Genèche à 3500 ans.
Pas besoin, il y a une chazaka. Une présomption. On ne sait pas de qui on vient. On ne peut pas savoir.
C'est un peu gênant quand même, non?
Ah ouais.
C'est vrai.
C'est-à-dire, ceux qui s'inquiètent de ça...
Bah oui, tout le monde peut s'inquiéter.
Non.
Non.
Non, parce qu'à toutes les générations, c'est diminué.
Une présomption.
Oui, mais bon, on peut dire que c'est pas prévu. Là, les gamonais, c'est pas dilué, excuse-moi.
Excusez-moi,
là, c'est pas dilué.
Alpi et Ahmed, selon la vérité, ça peut pas se diluer.
Ça peut pas se diluer.
Oui. Moi, on a pas dit que quand...
Bon, d'accord.
Ça c'est bon.
Allez, on peut pas, de toute façon, on peut pas
savoir.
De toute façon, aujourd'hui, même avec les historiens, on peut pas remonter très loin dans l'art généalogique. On n'a pas. Bon. Donc on dit comme
le
ça.
Le sang, il nous aide.
Donc Shtuke va assouffer, donc on va expliquer. Donc dans la Mishnah numéro 2, c'est des gens dans lesquels on a un doute s'ils sont même zéro ou pas. Donc c'est encore une autre catégorie du peuple juif. Et donc voilà. Donc là, combien de catégories on a eu jusqu'à présent? On a eu 10 catégories. Kohanim, Lévim, Israélim, Halal, donc c'est le profané, le guerre, c'est le converti, Harouré, c'est l'esclave qui a été libéré, le Mamzer, d'accord, les Gabaonites, et Shtuke et Assoufé, donc c'est deux catégories de doutes de Mamzer qu'on expliquera dans la Mishnah numéro 2. Très bien. Donc tout cela, on a expliqué que Ezra les a fait venir avec lui toutes les familles problématiques, Ezra les a fait monter avec lui en Israël, pourquoi? Pour éviter que ceux qui allaient rester en Babylonie sans Rabbanim avec eux, il n'y aura pas des catastrophes dans les mariages. C'est très fort ce qu'il a fait, Ezra.
Bon.
Non, il a invité tout le monde à venir. Mais à part ça, il a fait venir. Il y a beaucoup qui sont venus. Et Ezra, il avait peur, comme on a expliqué au début, Ezra, il avait peur d'un problème. Il avait peur que comme il savait que les rabbinim sont venus avec lui, donc il savait qu'en Babylonie, il n'allait plus rester de rabbinim pour gérer ses problèmes. Et donc les problèmes de mariage, c'est très très dangereux. Donc, ça peut amener beaucoup de problèmes.
Donc, c'est un recensement permanent, alors.
Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Ezra? La technique qu'il a eue, il a dit, bon, d'abord, bien sûr, celui qui veut, il vient. Donc, bien sûr, la majorité du peuple juif qui est venu. Mais à part ça, il a convaincu, je sais pas, peut-être qu'il a payé même, les familles problématiques pour qu'elles viennent avec lui en Israël. Toutes les familles problématiques, il les a amenées avec lui.
La majorité, c'était à peine 90 000.
Ouais, c'était la majorité. Des Babylones. Il y en a qui étaient déjà partis.
Justement, il a su figer ceux qui sont restés parce qu'il y a un
truc de Lévi, mais Lévi, ça. La majorité de Babylonie sont venus. Ils ont suivi. D'accord. Mais la force qu'il a eue, c'est qu'il a pris, comme il savait qu'il y avait du monde qui allait rester sans Rabbanim, il a pris avec lui, il a convaincu toutes les familles problématiques de venir également avec lui.
Oui, il a déplacé le problème, c'est tout.
Il a déplacé le problème. Oui, attention, j'ai pas dit qu'il a arrangé le problème. J'ai dit qu'il voulait pas laisser le problème de manière qui n'était pas gérée.
Oui, c'était sûr. D'accord.
Après, il était en Israël, en Israël,
il continue de le gérer.
En Babylonie, c'est bien les distributs.
C'est qui? Non, pas du tout, les distributs, c'est après encore.
Non,
les distributs, c'est ça très vite. Ça n'a aucun rapport.
Elles ont disparu déjà.
On ne sait pas où elles sont distribuées.
Déjà, elles ont disparu. Donc, les 10 tribus qui n'ont pas voulu remonter.
Non, pas du tout.
Je crois qu'il n'y avait que Yehuda.
Il y avait les Lévim surtout. C'est surtout les, on parle beaucoup des Lévim. On dit que les Lévim ne voulaient pas monter en Israël. Et c'est pour ça que quand après on a réussi à les convaincre de monter en Israël, Ezra les a punis. Ezra les a punis, il leur a dit, vous aurez, on va vous enlever certains droits que vous avez en tant que Lévi au Beth Amikdash. D'accord ? Non, c'est pas rancunier.
C'est pas... Bon.
Alors, on continue. Kané, Lévi et Israël. Donc puisqu'on on a parlé donc, de 10 catégories, sociales qu'il y avait dans le peuple juif, donc qui sont venus en Israël, puisque donc tout est là. Tout était là, parce qu'il a fait monter toutes les familles problématiques. Donc tout était là en Israël. Donc, Kané, Lévi et Israël. Les Kohanim, les Lévim et les Israélim. Donc Israël c'est un juif standard, il n'y a pas de problème. Moutarim, la voix est basée, ils ont le droit de se marier l'un avec l'autre. Ça veut dire que, par exemple, un Israël peut se marier avec une Kohanette, etc. Néanmoins, un petit détail quand même que je vais vous faire remarquer, c'est que c'est écrit dans Shulchan Aruch que un juif simple, d'accord, comme nous, s'il veut se marier, enfin comme moi, ça, d'accord, s'il veut se marier avec une femme Kohanette, ça veut dire une Kohanette, il a une obligation d'être un Talmid Chacham. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par Kavod, pour la famille de la Kohuna, on a l'obligation d'être Talmid Chacham, ça veut dire d'être un érudit. Bon, bien entendu, on ne peut pas exiger à tout le monde d'être un érudit. C'est pour ça que les rabbinim, j'ai lu plusieurs lettres du rabbi, dans lesquelles, par exemple, le rabbi demandait à quelqu'un qui se mariait avec une femme Kohen, lui dit, au moins, essaye avant le mariage d'apprendre une Maseret, un traité de Gemara, parce que selon certains avis, en ayant étudié un traité de Gemara, on peut considérer qu'on est déjà un Talmid Chacham. Parce que c'est un vrai problème. Sinon, c'est presque une profanation du nom de Dieu. Le fait de parce que quand on se marie avec la famille des Kohanim, il faut être Talmid Chacham. Il faut être quelqu'un d'érudit. Donc, on dit... Donc,
Lévi aussi, quelque part.
Hein. Non, Kohen. Que Kohen. Moutarim, la voix est basée. Donc, mais bon, en tout cas, c'est Moutar. C'est-à-dire Kohen, Lévi et Israël peuvent se marier, les trois, d'accord.
L'inverse aussi pour une femme. Il se marie avec un Kohen.
Non, c'est que pour l'homme, non. C'est que pour l'homme.
Non, mais il ne faut pas qu'elle soit non plus, quelque part...
problématique.
Non. Est-ce qu'il faut elle aussi qu'elle soit un petit peu comme
étape
avec un problème.
Non. Sur l'homme, c'est sur l'homme. L'érudition, c'est sur l'homme.
D'accord.
Donc, Moutarim, la voix est basée. Donc, Kohen, Lévi et Israël peuvent se marier les uns avec les autres. Maintenant, on va continuer. Lévié, donc oublions, on va mettre les Kohanim de côté.
Puisqu'on parle de bonnes nouvelles.
Lévié, Israélé, les Lévim, hein, les Israélim, Chalalé. Alors écoutez bien ce qu'on a dit maintenant. Maintenant, on va mettre les Kohanim de côté. Lévié, Israélé, Chalalé, Géré, Vacharouré. Les Lévim, les Israélim, donc les Juifs simples. Les Chalalim, ça veut dire, on a dit Chalal, ça veut dire le Kohen qui est issu d'un mariage profané. Guéré, les convertis. Vacharouré. Et Charouré, ça veut dire les esclaves qui ont été libérés. Tout cela, Moutarim, la voix est basée, ils ont le droit de se marier l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Kohen qui a été mis à l'écart. C'est-à-dire que par exemple, un Israël, moi j'ai le droit de me marier avec un halal, avec une fille halal. Donc avec une fille qui est halala, ça veut dire une fille qui est issue d'un mariage, un Kohen, d'un mariage pas cachère d'un Kohen.
D'accord.
Je parle d'un exemple, moi qui suis Israël. On peut se marier avec une convertie, il n'y a pas de problème, alors qu'un Kohen ne peut pas se marier avec une convertie. Et Charouré, donc pareil, un esclave qui a été libéré. Vous vous rappelez ce que je vous avais expliqué? J'ai expliqué que un esclave, de quel esclave je parle ici? Je parle d'un esclave cananéen. L'esclave cananéen, quand il devient esclave, il prend toute la lachot des femmes. Et dès qu'il est libéré, d'accord, il peut devenir juif. Il peut refuser s'il veut, mais il peut devenir juif. D'accord. Donc tous les cinq catégories qu'on a combien de dire.
Quand il devient juif, il prend toutes les.
Là, il devient juif 100%. C'est pour ça qu'on avait donné la technique avant. Vous vous rappelez la technique qu'on avait dit? On avait dit, qu'est-ce qu'il avait dit à Bitarfon? Il avait dit.
C'est quelqu'un qui est mamzer.
Pour récupérer un mamzer. Ouais, d'accord? C'est parce que il devient juif. Il devient juif à 100%.
C'est Rabbi
Tarfon, dans la Mishnah, de.
Un juif avec une femme halalée, pour les enfants, ça va pas causer
après. Non, pas trop.
Non?
Un Israël, non, ce qu'on avait expliqué avec les mamzerim. Bon, c'était long, c'était un développement développé pour expliquer comment on peut récupérer un mamzer. En le rendant esclave, en le libérant, c'était une belle technique.
Mais lui reste mamzer, simplement ses enfants deviennent.
Oui, voilà, si quelqu'un il veut que ses enfants ne deviennent pas mamzer.
D'accord.
Donc,
c'est pour ça qu'on appelle ça un ben guéri.
Lévié, donc, on a dit Moutarim, la voix est basée. Maintenant, guéré, des convertis. Vacharouré, donc un esclave. Donc maintenant, qui on a enlevé? On a enlevé le Kohen, le Lévi et le Israël. D'accord? Donc là maintenant on va en enlever le Kohen, le Lévi, le Israël, et on va parler de Guéré, les convertis, Vacharouré, donc un esclave libéré, Mamzeré, le Mamzer, ou Netiné et les Gabaonites, Shtukeva Soufé, qu'on va expliquer dans la Mishnah suivante, Kula Mutarim, la voix est basée, ils ont tous le droit de se marier l'un avec l'autre. Donc là, ça veut dire que...
Une belle pagaille, tout ça.
Ça veut dire que... Non, justement. Ça veut dire qu'on a... Donc là, on a exclu Cohen, Lévi et Israël.
D'accord.
Donc, donc avec ça, on a fait le tour.
Mais après, ceux-là peuvent pas remonter du tout d'un cran?
Non.
Non, une fois qu'ils sont dans ce...
Au contraire, on prend le plus grave.
Dans ce sous-ensemble-là...
On prend le plus
grave. C'est fini. Ils restent toujours dans ce sous-ensemble.
Ils restent toujours dans ce sous-ensemble. Donc, vous voyez, donc on a donné ici toutes les, on a donné ici toutes les catégories, mm-hmm. d'accord? Toutes les catégories, qui peut se marier avec qui? Bon. Donc, ça veut dire que si je parlais pas, donc c'est moi, Israël, par exemple, avec qui je peux me marier? Je peux me marier avec une Kohenette, une Lévia, une femme standard comme moi, une femme halal, donc qui est issue d'un mariage profané, une convertie, et une esclave, donc une esclave cananéenne qui a été libérée. Donc je peux me marier avec 6 catégories, tout le reste je peux pas.
Et alors, et dans la dernière catégorie, c'est un mélange parce qu'on retrouve.
Oui, alors la dernière catégorie, on a pris les 6 dernières catégories, on a dit que les 6 dernières catégories peuvent s'intermarier.
D'accord.
Mais vous avez remarqué que qu'on a enlevé le Cohen, le Lévi et le Israël. Et qui on a enlevé encore? On a enlevé le Cohen, le Lévi.
Dommage,
hein. On a enlevé le Cohen, le Lévi, le Israël.
Les hommes ont trouvé les enfants naturels.
Qui on a enlevé encore à part ça?
Ils vont devenir mamzerim dans l'histoire.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a enlevé le. Shtukeva Soufé, Netiné, on a enlevé le... Le Halal. Le Halal.
Le Halal, ouais. il
Non, il n'est pas dans la 6e catégorie. Le Halal, il reste toujours Kadosh. Vous voyez, la preuve, c'est que le Halal ne rentre pas dans les dernières catégories. Voilà. Donc maintenant, on va étudier qu'est-ce que c'est Shtuké, qu'est-ce que c'est Asoufé. On a dit que Shtuké et Asoufé, en gros, c'est des enfants sur lesquels on a le doute s'ils sont mamzer ou pas. Alors, c'est quoi Shtuké, c'est quoi Asoufé? Donc, dit la Mishnah Bet. Ve Elohem Shtuké. Voici ce qui rentre dans la catégorie de Shtuké. C'est Kol Sheu Makir Atimo Veino Makir Ataviv. Tout celui qui connaît sa mère, mais qui ne connaît pas son père. C'est-à-dire qu'il est né d'une femme qui était célibataire. Donc on sait que forcément elle a eu des relations avec quelqu'un, mais on ne sait pas de qui est. Bon. Alors pourquoi on a un doute s'il est mamzer ou pas? D'accord? Pourquoi on a un doute s'il est mamzer? Parce que on sait pas de qui, puisqu'on ne sait pas qui est le père, peut-être que le père est un mamzer. Et ouais. Si le père est un mamzer, c'est transmissible. Vous me suivez? Donc, on ne sait pas.
Non, le père est peut-être marié.
Le père est... Non, et alors? Non, si le père est marié, ça pose pas de problème.
C'est elle qui est...
Ouais. Le seul problème, c'est que peut-être le père est mamzer. Et là, dans ce cas-là, on ne sait pas. Donc, est-ce que l'enfant est mamzer ou pas? On ne sait pas. Peut-être oui, peut-être non. Donc ça, ça s'appelle Shtuké. Et la Gemara explique que pourquoi on l'appelle Shtuké. Pourquoi on l'appelle ou bien de mamzer. En passant, on avait expliqué la semaine dernière que mamzer, c'est pas seulement... La mamzer, c'est pas seulement quelqu'un qui est issu d'un... C'est pas seulement celui...
D'adultère.
Mamzer, ça peut être par exemple, si cette femme a eu une relation avec son frère, l'enfant qui est issu de cette relation sera aussi mamzer. D'accord? Mamzer, c'est un enfant qui est issu d'un mariage qui est interdit. Donc voilà, peut-être qu'elle a eu une relation avec son frère, et que voilà, l'enfant qui est issu, c'est issu de son frère. Donc l'enfant est mamzer, donc on ne sait pas. Pourquoi on l'appelle Shtuké? Dans Shtuké, on a le mot Sheket, silence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Quand l'enfant il demande, il dit c'est qui mon papa? Sa mère elle lui dit elle le fait taire. Donc du coup il sait pas qui est son père. Donc il sait pas s'il est mamzer ou pas. Il rentre dans la catégorie de Shtuké.
Bon, avec l'ADN maintenant ils peuvent savoir quand même.
Oui. Bah, en tout cas.
C'est vrai que ça va apporter une incidence curieuse sur le.
Asoufé. C'est quoi Asoufé? Kol Shenesaf Minashuk. C'est une deuxième catégorie. C'est quelqu'un qui a été ramassé au marché. C'est quelqu'un qui a été trouvé au marché. Veino Makir Lo Ataviv Velo Atimo. Il ne connaît ni son père, ni sa mère. Donc, d'où il vient? Peut-être que son père et sa mère étaient problématiques. Et au contraire, je vais vous dire même, le fait qu'il ait été jeté dans la rue comme ça...
C'est un bon assistance.
D'accord
publique.
Ça veut dire que bon, c'est pas normal.
Ça peut être aussi un chouqué, puisque... Oh, je pourrais jamais, il n'y a pas de père.
Ouais.
Hop, elle l'a planqué.
D'accord. Non, mais justement, ça veut dire que le fait qu'il est au marché, c'est... Ça pose problème.
Oui.
D'accord. Bon. Donc...
C'est même pas s'il est juif.
C'est deux catégories.
Il a mis la tête.
Ah, bonne question.
Oh
bonne question.
Ça dépend, on va trouver le Moël.
Il pose une bonne question.
On va trouver le Moël.
On parle dans une ville où il y a une grande majorité de juifs. Donc on considère que certainement il est juif. C'est une bonne question que tu poses.
Ah bon?
Le seul, ouais, bah,
bah,
oui.
Ça paraît logique.
Bah, oui, parce que puis qui dit qu'il n'est pas goy? Ah, dans ce cas-là, on va considérer qu'il est juif, d'accord? Parce qu'on a une raison de penser qu'il est juif. Mais le problème, c'est qu'un enfant qui est jeté dans le marché, c'est pas normal. Et il y a une raison quand on laisse quelqu'un dans le marché. Donc, on ne sait pas, il connaît ni son père, ni sa mère. Ça, c'est Asoufé. ça s'appelle Asoufé. Dans Asoufé, on a le mot comme Chagatif, d'accord? Asoufé, ça veut dire rassembler, ramasser. Donc c'est un enfant qui a été ramassé, qui a été trouvé au marché. Voilà, donc c'est juste pour expliquer qu'est-ce que c'était Shtouké, que c'était Asoufé. Abba Shaoul aya koré li Shtouké, Bdouké. La Mishnah nous raconte un fait historique. On nous dit que Abba Shaoul, les gens Shtouké qui étaient... Shtouké, ça veut dire les gens comme ça qui étaient... Shtouké, c'est la première catégorie.
Shtouké, c'est la première catégorie.
Celui,
ça veut
dire, sa mère le fait taire quand il demande des informations. On dit, lui, Abba Shaoul appelait ces gens-là Bdouké. Bdouké, ça veut dire quoi? Dans Bdouké, on a Bdika. Bdika, ça veut dire...
C'est comme Bdika.
Recherche. C'est-à-dire que selon Abba Shaoul, lui, ça n'existe pas quand on ne sait pas c'est qui le père. Si tu sais c'est qui la mère, le Bedin doit questionner la mère, d'accord?
Tu vas parler, d'accord?
Et le Bedin doit utiliser les méthodes qui sont à sa portée, d'accord? Pour faire parler la mère. Et c'est intéressant, la Gemara explique que selon Abba Shaoul, c'est au bout du coup, la mère a dit, écoutez, mais c'est vrai que c'est pas bien ce que j'ai fait, mais le père était cachère. Si le père est cachère, Abba Shaoul lui dit, on la croit. Comme ça, il tient à Bachaoul. Bachaoul dit que, on va utiliser les méthodes qu'on a au Sanhedrin, au Bedin, mais si en fin de compte, on arrive aux conclusions que selon les méthodes qu'on a eues, a priori, le père était cachère, on considère que l'enfant sera cachère.
Mais aujourd'hui,
la halakha, elle est comme une.
Certainement.
Mais aujourd'hui, tu arrives, il y a des familles, tu sais, il y a un des deux parents que tu connais, pas, ou des deux, ou des machins, mais ça existe aujourd'hui.
Si.
Aujourd'hui, tu sais.
Oui, effectivement, la halakha est comme un Bachaoul.
Aujourd'hui, il y a des fois dans des familles, tu sais, s'il y a eu le père, pas le père, il y a tellement de mélange. Et des fois, tu sais, par exemple, que connaît pas le père, ou est-ce que pourtant ça en fait des mamzer dans la génération d'aujourd'hui?
C'est si pareil. Si on ne sait pas qui est le père,
c'est un mamzer.
Il rentre dans la catégorie de Shtouké. On sait qui est la mère?
La mère, oui, par exemple.
Non, il n'est pas mamzer, c'est un Shtouké.
Ah, Shtouké.
Shtouké, ça veut dire qu'on a un doute s'il est mamzer ou pas. Donc du coup, on peut pas se marier avec lui.
C'est-à-dire quelqu'un, un juif aujourd'hui qui sait comme ça, il pourrait pas se marier.
On peut pas se marier avec lui, non.
Je suis pas sûr. Et est-ce qu'il veille à tout ça?
On connaît le père. C'est rare qu'on connaît pas le père.
Non, ça peut arriver.
Il a au moins un père officiel. Ça veut dire que toi quand on te présente par exemple pour tes enfants, si Dieu veut, on va te présenter quelqu'un. Maintenant, on te présente quelqu'un, on dit voilà la mère, voilà le père. Maintenant, peut-être que le père, c'est pas le père de l'enfant, c'est possible.
C'est ça.
Mais on pose pas de questions. Mais si tu vois un enfant débarquer, on sait qu'il a pas de père, on sait que son père, on sait pas où il est. Là, on peut pas. Mais on te demande pas d'aller questionner, d'aller dire on va faire un test ADN pour savoir est-ce que vraiment il est issu de ce père. Mmh. D'accord?
Mais si tu ne crois pas le test ADN, il rentre dans le bedding.
Comment?
Quoi, si. Oui. Le bedding, c'est pas un truc obscur de chez les moines de curés, là.
On n'exige pas un test ADN, non, il a raison. On n'exige pas,
mais c'est-à-dire que si maintenant qu'il y a cette nouvelle technique pour déterminer une paternité,
ça
servira. Hein.
Ça fiable à 100%.
Donc, pour déterminer si on est conne ou pas conne, c'est fiable à 100% si la personne n'est pas le père.
C'est pas fiable à 100%, je vous donne un exemple. Par exemple, test ADN, d'accord? Ouais. Si vous avez une femme, d'accord, qui a eu des relations avec... Donc, une femme qui est mariée, qui a eu des relations avec son frère.
Oui.
D'accord.
Avec le frère de qui?
Avec le frère de la femme. Ou avec le frère du mari.
Ouais.
Ça peut fausser l'ADN, parce qu'on retrouve... Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faussées. Mm.
Si elle a eu avec son propre frère à elle...
Ou elle a eu... Ou elle a eu avec...
Donc il n'y a pas un gramme du mari.
Ou elle a eu avec le frère du mari.
Voilà.
Eh ben oui, mais il y a des séquences.
Ah, c'est très compliqué.
C'est bon, ça ne marche pas. Ils ne le prennent pas mal. Justement, on est obscur.
Je pense que c'est pas fiable à 100%, enfin à mon avis. Peut-être qu'aujourd'hui on a des techniques fiables à 100%, mais de ce que je sais,
On savait il y a 20 ans, on savait pas, maintenant on va...
Mais voilà, je vous donne un exemple, il a eu des relations avec le frère, le frère du mari.
Je suis pas calé pour te dire si oui on va quand même savoir, mais c'est sûr que c'est pas des vrais jumeaux, le frère.
Bon.
Et même le vrai jumeau on est capable maintenant.